Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Images et mots à voix haute, épisode du 15 février 2026. C'est la toute première de la saison, enfin, et je suis heureuse de reprendre cette émission à propos de littérature jeunesse. Heureuse et fière de donner la parole à des jeunes lecteurs, des jeunes lectrices, à des enseignants, des enseignantes qui mettent la littérature jeunesse au cœur de leur enseignement, à des créateurs, des créatrices qui écrivent et illustrent les livres pour les enfants et les jeunes, ainsi qu'à des artisans qui œuvrent ardemment dans les milieux littéraires et dans les coulisses de la chaîne du livre jeunesse. Aujourd'hui, on consacre l'épisode tout entier au thème de la lecture à voix haute. En seconde partie d'émission, on rencontre les deux lauréats du Grand Jeu de lecture à voix haute du Salon du livre de Montréal, Margot Morier, en cinquième année, et Thérence Jarosse-Daigle, en sixième année, leurs enseignants et leurs parents, ainsi que Radia Chériaf, bibliothécaire du CSSDM et l'une des organisatrices de ce grand jeu. Mais d'abord, en première partie, l'éditrice Gilda Rotti prend d'assaut la tribune littéraire de grandes personnes et nous fait voir toute l'importance de la lecture à voix haute. Je vous présente également Léane Laprise, la grande lectrice du défi « Lis avec moi 2025 » que j'ai rencontrée en juin dernier, peu après la finale de ce défi de lecture à voix haute. Dans cet entretien, Léane est accompagnée de son enseignante de troisième année et de sa mère. Et c'est parti! Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse, tout particulièrement sur la lecture à voix haute.
Bonjour, moi je m'appelle Charlie, j'ai 10 ans et j'adore lire les mangas parce que c'est beau, c'est bien dessiné et c'est ça.
Tribune littéraire de grandes personnes.
Des artisans du monde littéraire assurent tour à tour cette chronique. Aujourd'hui, c'est l'éditrice Gilda Rotti qui investit cette tribune littéraire. Bonjour Gilda.
Bonjour Marie.
Gilda, c'est un plaisir de vous confier cette tribune littéraire. Je vous présente rapidement, vous êtes responsable du développement chez Gallimard Diffusion et présidente du conseil d'administration du Salon du livre de Montréal. Vous œuvrez dans le monde de l'édition depuis de nombreuses années, maintenant chez Madrigal Gallimard, auparavant chez Bayard et chez Fides. Au Salon du livre de Montréal, vous animez depuis quelques années le grand jeu de lecture à voix haute offert aux élèves du troisième cycle, donc du Centre de services scolaires de Montréal. Et j'ai fait appel à vous pour parler justement de l'importance de la lecture à voix haute. Gilda, on vous écoute.
Alors, juste une petite correction, je ne suis plus présidente du conseil d'administration du Salon du Livre, mais c'est pas grave. Donc, le salon me tient à cœur.
Oui.
Et donc, le directeur du salon m'avait proposé, quand j'ai quitté ses fonctions, il m'a dit, fais ce que tu as envie de faire, ça pourrait être, voilà. Et donc, moi, la lecture à voix haute me tient à cœur parce que je trouve que c'est magnifique pour les enfants et pour ceux qui écoutent. Une lecture à voix haute et donc avec les services scolaires de Montréal et des professionnels absolument extraordinaires, Radia et Brigitte, nous avons, et c'est elles qui ont beaucoup organisé, nous organisons donc depuis 3 ans ce concours de lecture à voix haute dans certaines classes, dans des écoles plus ou moins défavorisés, où la lecture est un véritable défi, et la lecture à voix haute encore, parce que donc il faut qu'un jeune… Donc il y a un concours dans les écoles, dans différentes classes, pour les 5e et les 6e années, et donc le concours est organisé dans l'école, et ensuite donc les lauréats de chaque école viennent au Salon du Livre le mercredi matin, et donc il y a entre 5 et 10 écoles qui participent, et c'est vraiment un événement extraordinaire. Ce sont les enfants qui font eux-mêmes le choix. Sophie Fauché, la comédienne, leur apprend à lire à voix haute, à projeter leur voix. C'est vraiment, je pense, et puis on le voit à la fois ce que nous disent les enfants et ce que nous disent les enseignants, c'est un moment très important parce que c'est plus que la lecture, c'est pouvoir lire devant les autres. Et on remarque, c'est souvent, c'est pas toujours des enfants qui. On a eu cette année une petite fille qui avait des problèmes d'élocution,
Oui,
et
oui.
donc elle a magnifiquement. Elle était là. Avec beaucoup d'énergie, de présence. Et je pense que c'est ça qui est important aussi pour ces enfants-là, au-delà du texte qu'ils lisent. C'est une sorte de fierté de pouvoir faire partager un bout d'un texte, d'un livre qu'ils ont aimé.
Et ils se sont préparés pour
Ah
arriver
oui.
là. Et toute cette préparation-là, ça fait aussi partie du plaisir et de l'importance de cette lecture à voix haute.
Oui, tout à fait, parce que donc il y a la sélection du texte, quel texte je choisis,
Ben
il y
oui.
a la préparation, la lecture, et puis donc par exemple Sophie Fauché leur apprend à projeter leur voix, à bien savoir souffler, à bien faire la ponctuation aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça leur permet d'avoir un autre rapport au texte. Et je trouve que quand même lire à voix haute pour le lecteur. Et celui qui écoute aussi,
Oui.
c'est magique hein, de se faire lire quelque chose à voix haute. Je trouve que c'est toujours un magnifique moment et les enfants sont soutenus par leur classe. C'est vraiment magique.
C'est un cadeau, c'est très, très précieux, vraiment. Donc, et on espère que ça va revenir encore plusieurs années de fil, et on espère que ça fera des petits, parce que là, ça, au Salon du livre de Montréal, c'est offert aux élèves du CSSDM, mais dans d'autres centres de services scolaires, c'est un concours qui pourrait être offert aux élèves. D'ailleurs, offert aussi au deuxième cycle, avec le défi Lis avec moi
Tout
aux
à
élèves de
fait.
troisième et quatrième année. Alors, on espère que ça va vraiment, vraiment prendre de l'expansion, cette proposition de lecture à voix
Oui,
haute.
puis la magie d'être au Salon du Livre de Montréal aussi.
Ouais,
Il y
c'est
a plein
magique.
d'enfants qui n'étaient jamais venus au
Oui.
Salon du Livre. Donc pour eux, en plus de lire, il y a découvrir tous les livres qui sont proposés au Salon.
Et les auteurs et les illustrateurs.
Absolument, tout à
Alors,
fait.
merci Gilda. On va retrouver donc le lien. On va mettre le lien vers le Salon du Livre de Montréal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au très grand plaisir.
Merci beaucoup Marie, ça me fait plaisir à moi aussi. Au
Merci. Au
revoir.
revoir.
Dis-moi ce que tu lis.
Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent et qui parlent des livres jeunesse. Aujourd'hui, on reçoit Léane Laprise, grande lectrice 2025 du défi Lis avec moi. Son enseignante, Catherine Roussel, qui enseigne en troisième année à l'école Le Tandem Notre-Dame-du-Rosaire, du CSS Jonquière, et Julie Pinault, la mère de Léane. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
C'est un immense plaisir de vous recevoir à la radio de Canalem, à Imagémo à voix haute. Catherine, on va commencer avec vous. Parlez-nous un peu de l'école Tandem Notre-Dame-du-Rosaire. Où est-ce que c'est situé et quelles sont ses particularités?
Ben, comme vous l'avez déjà super bien dit, Notre-Dame-du-Rosaire, c'est une école qui fait partie du centre de services de la Jonquière. C'est une école un petit peu spéciale. Elle est divisée en deux bâtisses. C'est-à-dire que nous avons l'édifice Saint-Luc qui accueille les jeunes de la maternelle à la deuxième année. Et l'école Le Rosaire, elle accueille les élèves de la troisième à la sixième année. Notre établissement compte environ 10 classes qui accueillent 180 élèves. C'est un milieu avec un niveau de défavorisation légèrement au-dessus de la moyenne, mais c'est quand même très une école régulière, on peut dire. Donc, il n'y a pas de, vraiment de spécificité là, au niveau des classes à besoins particuliers, par exemple.
Et vous y êtes depuis combien de temps?
Ben, pour ma part, je suis au tandem depuis un peu plus d'un an. Et je suis une enseignante assez jeune. J'ai 25 ans, donc j'ai terminé mes études en avril l'année dernière et j'ai effectué mon dernier stage du côté de Saint-Luc en première année. Après, j'ai eu un contrat en quatrième année à la fin de l'année scolaire, ce qui m'a finalement menée à avoir la merveilleuse opportunité d'avoir ma classe de troisième année au Rosaire pour 2024-2025.
Ça, c'est formidable. Alors, vous êtes l'espoir de cette partie de l'éducation. Alors, on vous souhaite de rester longtemps, vraiment, parce qu'on a besoin de gens comme vous, Catherine. De quelle façon vous avez entendu parler du défi « Lis avec moi »
J'ai entendu parler du défi avec moi de ma collègue Nancy Penneau, qui est enseignante de 3e-4e année dans mon école. Mm-hmm. Dans le fond, c'est au début de l'année scolaire, on se cherche tout le temps là, qu'est-ce qu'on va faire comme comité pendant l'année. Et elle m'a parlé du défi avec moi. Puis j'ai tout de suite trouvé ça super intéressant. Elle m'a dit d'avoir déjà fait le défi dans les dernières années, puis elle était tellement motivée et enthousiaste que ça m'a... C'était difficile de lui dire non, là, de ne pas embarquer dans le défi.
OK, d'accord.
Donc, j'ai dû faire partie après ça du comité organisateur. Donc, on a décidé d'inscrire toutes les classes du deuxième cycle de notre école.
OK, d'accord. Alors, donc, c'est l'enthousiasme de Nancy qui vous a contaminé à inscrire.
Exactement.
C'est ça. Et d'après vous, Catherine, qu'est-ce que ça apporte aux enfants, le défi lié avec moi?
Selon moi, ça apporte beaucoup. Ayant fait mon stage au premier cycle l'année dernière, là, j'ai vraiment compris l'importance que notre milieu accorde à la lecture. Mm-hmm. D'ailleurs, le projet éducatif de l'école est justement sur la lecture, ce qui en fait, en gros, notre cheval de bataille. C'est donc vraiment important pour nous de développer chez les jeunes, oui, l'amour pour la lecture, mais on souhaite aussi qu'ils en comprennent l'importance. Mm-hmm. Pour ce faire, nous allons utiliser principalement la littérature jeunesse pour enseigner. Donc, peu importe la matière, on utilise des livres jeunesse. Par exemple, je peux autant lire un album pour un projet d'écriture que pour enseigner un élément de la grammaire comme les adjectifs. Mm-hmm. Donc, je peux vous confirmer que tout est mis en place afin que les enfants aiment la lecture dans l'école. Puis, depuis que je travaille au tandem, là, j'ai pu moi-même même lire un album dans le gymnase d'école. J'ai pu présenter mes livres coup de cœur aussi dans un événement qui réunissait tous les élèves dans le gymnase. Et même, on a même fait une bande de livres dans l'école là, pour que toutes les familles puissent, pour que ce soit vraiment valorisé là, la lecture chez eux. Donc, c'est vraiment au cœur de notre pratique déjà là, au centre de service. On y accorde beaucoup, beaucoup d'importance.
C'est super. Et c'est là qu'on va donner la parole et on va rendre hommage à notre invitée d'honneur, Léane Laprise, parce que c'est toi, Léane, qui a remporté le titre de grande lectrice de ce défi en mai dernier parmi les 28 talentueux et talentueuses finalistes. Je te félicite, Léane. Bravo.
Merci.
Léane, tu as commencé par gagner dans ta classe. Ensuite, tu as été nommée grande lectrice de ton école parce qu'il y avait les autres classes du cycle qui participaient. Et ensuite, tu t'es rendue en finale du centre de services scolaires de Jonquière à la dernière à la dernière étape du défi, en grande finale. Dis-moi, Léane, qu'est-ce que tu as aimé dans toute cette expérience?
Pour vous dire, surtout ce que j'ai aimé, c'est quand on lisait le livre. Parce que quand on lisait le livre, au début, j'étais stressée, mais quand je lisais le livre, là, tout mon stress, il partait directement.
Ah, ça, c'est formidable, ça. Quand tu faisais la lecture à haute voix, ta nervosité s'envolait, c'est ça?
Oui.
Ah! Puis comment ça s'est passé, la finale nationale? Comment t'as trouvé ça, venir à Montréal? Comment tu t'es sentie ce jour-là?
Je me suis sentie quand même un peu stressée. Mm-hmm. Mais sinon, j'étais vraiment heureuse d'avoir fait tout ce trajet-là parce que je me disais que j'étais rendue de la classe à tout le Québec. J'étais comme, même si j'ai pas gagné, au moins, j'aurais fait tout ce trajet-là et c'est déjà très important à savoir.
Ben oui, puis moi, je vais ajouter des informations. D'abord, ça a eu lieu le 25 mai. C'était toute la journée. Il y avait des enfants qui étaient comme toi, qui s'étaient déplacés, qui étaient venus au centre Paul Buissonneau dans le parc La Fontaine. Il y avait certains finalistes qui étaient sur Zoom, donc d'autres sur place, mais il y avait des gens de partout, hein, tu l'as dit, dans le Québec, mais aussi hors Québec. Il y avait des gens des territoires du Nord-Ouest, des gens de la Côte-Nord, il y avait vraiment des gens de un peu partout. Et c'était vraiment très, très impressionnant. Moi, je te comprends d'avoir été stressée puis d'avoir été un peu nerveuse parce que c'était tout un événement. Et toi, tu as lu un extrait de quel livre, Léane?
J'ai lu un extrait du livre « La soupe aux garçons ».
La soupe de garçon. Puis qui a écrit ça?
Ce livre a été écrit par Laurie Leskini et illustré par Mikhaël Martchenko.
Martchenko, oui. Puis lui, Mikhaël Martchenko, on le connaît beaucoup parce que c'est lui qui a illustré beaucoup, beaucoup les livres de Robert Munsch, qu'on aime vraiment beaucoup, hein, que les enfants adorent. Moi, j'ajoute que je l'ai cherché, ce livre-là, en librairie, il n'est plus disponible. On ne peut plus l'acheter parce que c'est un livre qui date un petit peu, mais on peut le trouver à la bibliothèque. Et pourquoi, toi, tu avais choisi ce livre-là en particulier, Léane?
Au début, j'avais reçu plusieurs propositions de livres. Au début, je n'allais pas choisir celui-là, mais je l'ai mieux lu et je me suis dit, « Oh non, là, je dois le lire! »
OK, c'est un livre qui t'appelait, là. Tu te sentais interpellée par le livre, là.
Oui.
Ah oui. Et j'aimerais ça que tu nous mettes en contexte, Léane, pour qu'on comprenne mieux. Explique-nous, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là?
En fait, dans ce livre, c'est un géant qui est très, très, très malade. Alors, il va regarder dans son guide de médicaments des géants pour essayer de se soigner. Et là, la seule solution, c'est un bol de soupe aux garçons.
Oh.
Il va réussir à attraper des personnes. Sauf que... les gens, ils ne voulaient pas se laisser avoir comme ça.
Ben non, puis là, il y a plein d'aventures hein, dans ce livre-là. À partir de là, tes parents ont filmé ta présentation lors de la finale le 25 mai dernier. Alors, on va se faire plaisir si tu veux, et puis on va écouter ça. Alors, on met l'extrait, on t'écoute et on te revient tout de suite après.
Ce matin-là, gros géant s'est réveillé avec un mal de tête carabiné. « Je souffre !» se plaint-il. « J'ai mal et je me sens faiblir !» Il tousse et les montagnes se mettent à bouger. Il éternue. « Achou !» Et la terre commence à trembler. « Ouh !» gémit-il. « Tout mon corps me fait souffrir !» Il rejette sa couverture en bougonnant et saisit son guide de médicaments des géants. De sa main colossale, il feuillette le bouquin médical et entre les éternuements si puissants qu'ils le rendent frémissant. Il retrouve tous ses symptômes à la page 71.
Mal de cœur perpétuel, essoufflement persistant, quinte de toux continuelle, abattement inquiétant et tendance à l'affaissement. Pour guérir, une seule solution, un bol de soupe au garçon. « Mais je ne peux pas !» dit le géant. « Ce serait disgracieux !»
Mais sur son visage apparaît un sourire malicieux.
« Bien sûr, si je suis malade, j'ai une excuse valable. Ah, quel merveilleux potage donnerait un enfant sage, de Dieu et savoureux, tellement délicieux qu'un géant lécherait son assiette jusqu'à la dernière gouttelette. Un garçon ragoûtant et assez gros... Mieux encore, un petit groupe. Une demi-douzaine de marmots fera une fameuse bonne soupe.
Gros géant réussit aisément sa capture, étirant son grand bras dans le ciel bleu azur. Il dépose la main sur la cime d'un arbre où jouent quelques gamins. Mais ceux-ci ne voient pas que la branche qu'ils viennent d'agripper peut les agripper à son tour. Oups! Trop tard! Voilà comment le gros gaillard attrape 5 garçons. Et Kate, merci de m'avoir écouté!
Bravo, bravo Léane. Excellente lecture. C'était fabuleux, hein? Moi, je me souviens que lors de la finale, je t'ai dit, après la lecture, que tu repartais avec la mention 3A, aplomb, assurance, aisance. Tu as lu ton texte avec expression, tu as joué avec les intonations et les voix des personnages. Le ton était juste, la prononciation claire. Tu as su maintenir le suspense et notre attention vraiment. Bravo, bravo.
Merci.
Et donc, toi, là, Léane, tu connais la suite et la fin de l'histoire. J'aimerais ça que tu nous rassures. Est-ce que ça finit bien pour les garçons et pour le géant?
Oui, ça finit bien pour les deux, mais il n'y a pas juste des garçons.
Mais non.
Il y a aussi une fille.
Qui s'appelle Kate.
Oui.
Oui, hein? Puis Kate, là, elle a un rôle important dans cette histoire-là, hein?
Très grand rôle important.
C'est pas mal.
Le plus grand rôle de toute l'histoire.
C'est pas mal grâce à elle que ça finit bien.
Oui.
Ouais, hein? Est-ce que tu savais, toi, qu'en 2013, donc ça fait 12 ans, c'est cet album-là qui a été choisi et primé dans le programme Un livre à moi, TD, qui a permis à des élèves de première année de partout au Canada de recevoir chacun un exemplaire du livre. On rappelle le titre, hein, c'est La soupe de garçon. Ça a été écrit par Loris Lesinski. Bravo. Illustré par Mikhaïl Marchenko, c'est traduit par Marie-André Clermont. Et le groupe Banque TD, de concert avec le Centre du livre jeunesse canadien, en a distribué près de 100 000 exemplaires à travers le Québec seulement pour célébrer l'importance de l'alphabétisation chez les enfants et encourager le plaisir de la lecture. Est-ce que ça t'impressionne?
Oui, ça m'impressionne beaucoup, surtout juste à cause que ce livre-là, là, c'est pas un livre que tout le monde dit, « Oh, je veux le lire! Je veux le lire! »
Non, non, c'est pas un livre qui est nécessairement très, très attirant. Alors, effectivement, mais c'est un très bon livre. Puis c'est un livre qui a eu d'excellentes critiques. Comment t'as fait, Léane, toi, pour choisir le bon extrait? Parce que tu avais à lire un extrait en classe, à la finale du CSS, puis à la grande finale aussi. Qu'est-ce qui t'a fait choisir un bout du livre plutôt qu'un autre bout du livre?
Eh bien, ce qui m'a fait choisir ce bout du livre, c'est qu'au début, le géant y parlait. Et moi, ce que j'aime, c'est parler.
Alors, puis là, tu pouvais faire des voix aussi, hein?
Oui.
Ouais.
Et aussi, je pouvais faire du suspense au dernier bout. Et surtout, j'adorais faire les voix. Les voix, c'est mon point fort.
Ah oui, hein, c'est ta force, ça. Puis qu'est-ce que t'as fait, toi, pour te préparer à chacune des étapes du défi? Qu'est-ce qui t'a aidé? Comment ça s'est passé?
Eh bien, ce qui m'a aidé, c'est surtout... Madame Catherine, elle m'a quand même encouragée. C'est elle qui m'a plus... Allez, Léane, let's go, Léane, let's go, t'es capable.
Oui.
Après, il y a eu ma sœur Agathe. Et Agathe, c'est elle aussi qui encourageait. Et mon autre sœur Aurélie, c'est elle qui critiquait.
OK, t'as reçu des conseils alors.
Oui, et aussi des critiques.
Et aussi des critiques constructives, ça c'est bon. Catherine, je reviens à Catherine. Merci Léane. Catherine, je reviens à vous. Qu'est-ce qui vous a soutenue comme enseignante pour soutenir à votre tour les élèves dans ce défi?
Ce qui m'a soutenue dans le défi, c'est surtout mes collègues, surtout Nancy, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a agi comme à titre de mentor, parce que c'était ma première expérience, ma première fois avec le défi lié avec moi. Mm-hmm. Et il y a également le site internet du défi qui était vraiment complet et super clair. Donc, ça m'a permis moi-même d'aller me renseigner avant d'aider mes élèves pour les préparer au défi. Puis... ce que j'ai trouvé, en fait, le plus regrettable dans tout ça, c'est qu'il y a peu de gens qui connaissent le défi.
C'est tout à fait vrai.
Il y a peu d'écoles qui ont participé, là, tandis que c'est super bien organisé. Mm-hmm. Il y a un super beau site, tout est très clair. Donc, j'ai trouvé ça quand même regrettable, là. Mais c'est sûr qu'éventuellement, là, je vais reparticiper au défi avec mes élèves là, pour leur transmettre l'amour de la lecture.
Ben oui. Et Julie, vous êtes la maman de Léane. Comment, comme parent, est-ce que vous avez soutenu, aidé Léane dans sa participation au défi?
Ben, je l'ai aidée comme j'ai pu, mais en fait, Léane a été déjà super bien accompagnée avec son école. Fait que je l'ai soutenue en la faisant pratiquer un peu à la maison, mais toujours dans le plaisir, c'était ça l'essentiel. L'objectif du défi, c'est que les enfants aiment lire, donc c'est jamais dans la performance, mais dans le plaisir. Oui. Puis C'est ça, ça a bien été.
Jamais dans, jamais dans la contrainte et surtout dans le plaisir.
Non, il fallait vraiment qu'elle ait du plaisir à le faire.
Et comme soutien, il faut quand même souligner que vous êtes venue jusqu'à Montréal pour la finale. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire le voyage, aller-retour, plutôt que d'y participer, d'y faire participer Léane virtuellement sur Zoom?
Bien, déjà, c'était possible pour nous. On a la chance, on était capable d'y aller. Puis c'est aussi une expérience qui arrive une seule fois dans une vie, là, je dirais. Donc, on sentait que ça pouvait nous faire des beaux souvenirs, non seulement pour Léane, mais pour toute la famille, d'aller l'encourager en personne. C'était intéressant aussi de voir les autres lecteurs. C'était une super belle expérience. Donc, c'est ce qui nous a motivés. On s'est dit, ça n'arrive pas souvent.
Léane, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, c'est aussi que, ben moi, je voulais vraiment y aller. Ma mère, Julie Pinot, était sur le point de pas vouloir y aller parce que, ben, elle trouvait que c'était beaucoup trop long. Mais moi, je voulais y aller. Et surtout, là, ce qui m'a surpris, c'était que les gens sur vidéo, en fait, ça modifiait leur voix et ça faisait que c'était une plus bonne lecture que moi-même.
C'est comme une difficulté supplémentaire pour ceux qui sont en vidéo. Dis-moi, Léane, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux élèves qui vont participer l'an prochain au défi lié avec moi pour qu'ils se préparent bien?
Je leur dirais de les pratiquer à chaque jour. Et s'ils ont des animaux de compagnie, lisez ce livre à votre animal de compagnie parce qu'il ne va pas vous juger. Il va rien vous faire. Et surtout, s'il y a une prof qui adore la lecture, tout ça, demandez-lui si des récré, des fois, vous pouvez vous pratiquer. Et surtout, ayez confiance en vous. Parce que j'ai vu des gens qui n'avaient pas confiance en eux, puis ça, c'est pas bien possible.
Ça compte, hein? Alors, l'idée, je retiens l'idée de l'animal de compagnie pour ne pas se sentir jugé. Si on n'a pas d'animal de compagnie, on peut lire devant un toutou, une poupée. Ça marcherait pareil, hein? Alors, je vous remercie vraiment, vous trois. Merci, Léane Laprise. Je te souhaite de lire encore plein d'aventures qui te plairont et de continuer à faire des lectures à voix haute parce que c'est un plaisir de t'entendre. Merci Catherine Roussel pour l'entrevue d'aujourd'hui, pour votre implication, pour tous ces projets qui font aimer la lecture à vos élèves. Longue vie dans l'enseignement. Et merci vous aussi Julie Pinault pour votre implication. Merci d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui encore, au grand plaisir. Merci à vous trois. Au revoir.
Au revoir.
Restez avec nous. Après cette courte pause, je reçois les deux lauréats du Grand Jeu de lecture à voix haute du Salon du livre de Montréal 2025, Margot Morier et Thérence Jarros-Daigle, leurs enseignants, leurs parents, ainsi que Radia Chériaf, bibliothécaire et l'une des organisatrices de ce concours de lecture à voix haute offert aux élèves du 3e cycle du CSSDM. À tout de suite! Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute.
Dis-moi ce que tu lis encore.
Dis-moi ce que tu lis encore, parce que nous allons rencontrer dans cette deuxième partie d'émission une série de personnes qui sont au centre d'un autre événement qui place la lecture à voix haute bien en évidence. Le défi « Lis avec moi » permet aux élèves du deuxième cycle de se démarquer en lisant à voix haute. Léane Laprise, la lauréate du défi 2025, en est la preuve vivante. On l'a bien entendu en première partie d'émission. Maintenant, on met de l'avant quelques-uns des artisans du grand jeu de lecture à voix haute du Salon du livre de Montréal, qui, lui, s'adresse aux élèves du 3e cycle du Centre de services scolaires de Montréal. Radia Chériaf, bonjour.
Bonjour Marie.
Et vous êtes la bibliothécaire au service éducatif du CSSDM et vous êtes l'une des organisatrices de ce grand jeu. Dites-moi, comment et pourquoi l'idée de ce grand jeu a-t-elle pris forme?
En fait, le grand jeu de lecture à voix haute a vu le jour en septembre 2022. D'abord comme projet pilote L'idée est née à l'initiative de Gilda Routy, ancienne directrice du Salon du Livre de Montréal, que je salue d'ailleurs,
ouais.
qui a communiqué avec Brigitte Boiteau, ma collègue bibliothécaire, et moi-même. Et elle nous a soumis son vœu de voir un jeu de lecture à voix haute destiné aux élèves de 6e année du CSSDM. Et elle voulait que la finale soit tenue au Salon du Livre en fin novembre.
Oui.
Nous étions très emballés devant cette proposition car elle s'inscrivait parfaitement dans le programme de français du 3e cycle du primaire. Mais une fois l'euphorie retombée, nous avons mesuré l'ampleur du défi.
C'est tout un défi.
Oui, bâtir un projet d'une telle envergure en à peine 2 mois, en partant presque de rien ou plutôt d'une seule phrase. Et c'est ainsi que l'aventure a réellement commencé.
En septembre 2022.
Exactement.
D'accord.
Alors, c'est alors que nous avons fait un lien avec le défi « Lis avec moi », organisé au 2e cycle par Geneviève Bergeron-Collin, que je salue aussi, mm-hmm. qui nous a permis d'ailleurs d'adapter son matériel pour le 3e cycle. Elle a fait preuve d'une grande ouverture et d'ailleurs, depuis, elle fait partie du jury du grand jeu de lecture à voix haute.
Tout à fait. Oui. Et comment les enseignants peuvent-ils ou elles y participer avec leur classe?
En fait, nous prenons d'abord contact avec les directions d'école qui relaient ensuite l'information à leurs équipes. Les enseignants intéressés remplissent alors un formulaire d'inscription pour proposer leur groupe. Comme le temps nous est limité pour effectuer une sélection, nous appliquons le principe du premier arrivé, premier servi. Il faut présenter 10 élèves provenant d'écoles différentes. Alors, lorsqu'une école inscrit plusieurs classes, c'est à l'établissement d'organiser ses propres finales interclasses.
D'accord. Et de là, il y a un élève par école participante qui se présente.
Exactement.
Et comment ça fonctionne? Comment il se prépare jusqu'au Salon du Livre en novembre, avec quel soutien?
Une fois les classes sélectionnées, elles sont accompagnées tout au long du projet. Celui-ci commence par une rencontre en ligne au cours de laquelle l'ensemble du déroulement est présenté aux enseignants. Nous bénéficions également du soutien de nos conseillers pédagogiques de français. Je souligne d'ailleurs la contribution précieuse de Julien Leclerc,
ouais.
qui a conçu spécialement une séquence d'enseignement à l'oral et des capsules vidéo pour présenter le projet, ainsi que celle d'Ariane Saint-André, membre du jury, qui tous deux soutiennent pédagogiquement les enseignants et les élèves au cours des 4 éditions.
Alors, ils sont vraiment très importants dans le processus.
C'est magnifique.
Parce qu'ils aident. Et les élèves du CSSDM, ils forment une population qui représente une grande diversité. C'est immense, hein, le CSSDM. C'est le plus gros centre de service scolaire. C'est en milieu montréalais. Qu'est-ce que la lecture à voix haute offre comme opportunité, comme défi pour ces élèves?
La lecture à voix haute offre d'abord une formidable occasion de donner une voix aux élèves du 3e cycle, peu importe leur parcours, leur langue maternelle ou leur niveau de confiance. Elle permet de développer la fluidité, la compréhension et l'expression orale, mais aussi de valoriser la parole de chacun. Pour plusieurs élèves issus de la diversité culturelle ou en apprentissage du français, c'est une façon concrète de s'approprier la langue, d'en saisir les nuances et le rythme tout en gagnant en assurance. Mmh. Elle présente aussi un défi, bien sûr, oser lire devant les autres, travailler la prononciation, l'intonation et la compréhension du texte demande du temps, de l'accompagnement et de la pratique. Mais justement, dans ce dépassement que les élèves développent leur confiance en soi, leur sentiment de compétence et leur plaisir de lire, c'est ce courage-là qui me laisse véritablement admirative à chaque fois. Et c'est pour ça que j'ai un penchant pour ce projet qui me passionne.
Ah oui, c'est vraiment un projet passionnant parce que on le voit. Moi, j'y étais les 2 dernières années, j'ai assisté. Et c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Ce qu'on demande aux enfants, c'est de faire la lecture, de lire et non pas de jouer.
Exactement.
On leur demande pas de faire du théâtre. On demande d'effectuer une lecture à voix haute, ce qui est pas tout à fait la même chose. Il y a des gens à qui vous vouliez dire merci, vous vouliez souligner l'apport de ces personnes-là. Je vous laisse
Merci Marie, justement, de me laisser la parole pour remercier toutes ces personnes. Parmi ces personnes, il y a Sophie Fauché.
Oui.
En fait, c'est une comédienne et puis autrice québécoise qui donne ses conseils à nos élèves. D'ailleurs, dernièrement, donc à la dernière édition, elle a fait une rencontre en ligne, puis elle a donné beaucoup de conseils pour les élèves. Ça a été vraiment un succès. Donc voilà, moi, je remercie tous les partenaires qui ont contribué aux 4 éditions du Grand Jeu de lecture à voix haute. Un merci tout particulier à toutes les personnes que j'ai nommées dans cette entrevue, à Jacques Goldstein.
Oui, aussi.
Pour son illustration emblématique offerte pour le projet, à Mathilde Rotti, coordonnatrice au Salon du Livre, ainsi qu'à la Delphes pour les prix remis aux finalistes et à leur classe. Merci également à ma coordonnatrice Isabelle Grenier pour avoir donné son aval à la poursuite de ce projet. Sans oublier. Madame Cécile Pierrard, qui, suite à sa participation à la 3e édition, elle a voulu organiser un jeu.
Oui, dans son école.
Dans son école, à la maîtrise des petits chanteurs du Mont-Royal. Oui. D'ailleurs, on était toutes les deux membres du jury. Oui. C'était une expérience extraordinaire.
C'était vraiment extraordinaire. Je vous remercie, Radia Chériaf. Merci à votre collègue Brigitte Boiteau aussi, au conseiller pédagogique, aux gens du Salon du Livre de Montréal, à tous ceux et celles qui soutiennent ce fabuleux projet. Longue vie au grand jeu de lecture à voix haute. Merci. Au revoir.
Dis-moi ce que tu lis encore!
On a la chance maintenant d'être en studio avec un bien beau groupe. On fera cette entrevue en deux temps avec les deux lauréats du Grand Jeu de lecture à voix haute du Salon du Livre de Montréal. Bonjour d'abord à Margot Morier, la gagnante du Grand Jeu en 5e année. Bonjour,
bonjour
Margot! Bonjour! Avec toi Margot, il y a aussi ton enseignante, Coralie Marais. Bonjour Coralie!
Bonjour!
Et tes parents, Samuel, qu'on n'entendra pas, mais il y a aussi Jeanne Ménard-Leblanc, qui est ta maman. Bonjour.
Oui. Bonjour.
Jeanne. Et Samuel, qui est aussi avec nous, mais qu'on n'entend pas. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous deux. Margot, si tu veux, je vais donner la parole d'abord à ton enseignante, à Coralie. Coralie, j'aimerais ça que vous nous parliez de l'école Saint-François-Solano. C'est où?
Oui, dans le fond, c'est une école dans Rosemont, en plein dans Rosemont. Et on est une école avec des points de service. Fait qu'on a des points de service TSA, DGA. Puis on est quand même une bonne école. Là. On a environ 25-30 classes là, à
c'est
l'école.
Bon, ouais.
Puis c'est ça, on n'a pas de cas de défavorisation.
Donc,
là,
un milieu économique relativement moyen.
Oui, c'est ça. Fait qu'on a une belle école, on a accès à beaucoup de choses aussi. On est vraiment chanceux là-dedans.
Mm-hmm. C'est bon, excellent. Puis la lecture au troisième cycle, c'est quoi la place de la lecture?
Bien, juste à l'école, en général, je pense que la lecture a quand même une grande place. On fait beaucoup de projets interniveaux, intercycles. On a beaucoup d'échanges de livres. On se partage nos ressources. Pas mal toutes les classes font de la lecture à tous les jours aussi. On essaie aussi d'avoir des différentes approches. Donc, de la lecture à deux, des cercles de lecture, tout ça. Donc, c'est ça. C'est vraiment une belle école parce qu'on a des beaux livres. On a des paniers de livres qu'on se partage de classe en classe. Donc, vraiment, je pense que ça aide aussi aux élèves.
Oui, ça aide définitivement. Et pourquoi vous avez eu envie de participer avec vos élèves au Grand Jeu de lecture à voix haute? Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer?
Oui, dans le fond, le projet Lis avec moi, c'est un projet qu'au deuxième cycle, ils font depuis quelques années déjà. Mm-hmm. Donc là, cette année, on a eu la chance de le faire au troisième cycle aussi. Puis c'est vraiment grâce à notre orthopédagogue, Jennifer, qui, elle, faisait déjà l'accompagnement au deuxième cycle, qui est venue nous voir au troisième cycle pour nous dire « Hey, il y aurait ça, on pourrait aller au Salon du livre et tout ça. » Donc, on s'est dit qu'on allait se lancer. Toutes les classes du troisième cycle, on s'est lancé. C'était un beau projet aussi de cycle, puis d'école au final. Ben oui. Donc, même quand Margot a gagné, on l'a annoncé à l'école, puis tout le monde savait c'était quoi pas mal le projet Lis avec moi. C'est vraiment beau l'entrain que ça apporte de faire ce projet-là.
Ah, c'est intéressant. Margot, c'est toi qui représentais ta classe et ton école. Qu'est-ce que tu avais choisi de lire comme livre, toi, au Salon du livre?
Moi, j'avais choisi de lire Fable, la recrue.
Le tome 1.
De l'édition Petit Homme.
Ouais.
Le tome 1, écrit par Émilie Ouellet.
Émilie Ouellet. Et elle, on l'aime-tu, hein? Oui, hein? C'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup, moi aussi. Pourquoi tu avais choisi ce livre-là, justement?
Parce que ça parlait d'improvisation. Et moi, j'aime beaucoup ça, le théâtre. Donc, tout ce qui touche à parler devant un public, j'aime beaucoup ça. Et je me suis vraiment imaginée devant, dans la peau du personnage, puis j'ai vraiment aimé ça.
Ah, c'est intéressant. Moi, j'aimerais ça qu'on t'entende lire à voix haute, parce que on a un court extrait de ta performance au Salon du Livre. C'était le 19 novembre dernier. Si tu veux, on t'écoute.
J'aperçois l'école au tournant de la rue. Il y a des dizaines de jeunes partout. Ils parlent entre eux sur le gazon, sur la grosse roche et dans les escaliers. Je resterai pas dehors. J'ai imprimé mon horaire et je vais essayer de trouver mon local à l'avance pour ne pas arriver en retard. J'entre dans le bâtiment et d'autres élèves sont là aussi. Je vois le secrétariat au bout à gauche, mais si je me fie aux ados, faut aller à droite. Je marche derrière un groupe de garçons un peu plus vieux que moi et j'arrive dans un espace central. Autour, il y a des casiers. J'ai hâte qu'on m'attribue le mien parce que mon sac à dos est vraiment lourd. Je crois qu'on fait ça avec notre groupe plus tard aujourd'hui. Je vérifie si j'ai mon cadenas dans mon sac. Je l'ai. Fiu! Je sors mon horaire et mon premier cours du matin est avec ma titulaire, Madame Dubé. Je dois aller au A105. Je lève les yeux et remarque 4 sections accessibles à partir de l'espace central. L'une s'emmène au sous-sol, une autre au deuxième étage et deux autres encore dans des directions opposées du rez-de-chaussée. Je cherche une inscription, une indication, enfin quelque chose qui m'aiderait à savoir où je dois aller. L'horloge murale indique 8h20. J'ai 10 minutes pour trouver mon local. Purée, avant ça, j'aurais apporté une boussole puis un kit de survie en forêt. Ils n'ont pas pensé aux nouveaux dans cette école? On dirait qu'ils savent tous où aller. Si c'est comme à Montréal, les élèves de premier secondaire ont dû avoir une journée d'intégration avant l'été. Le problème, c'est que moi, j'étais pas là. L'aiguille des secondes bouge sans arrêt sur l'horloge et je vois ma vie se défiler sous mes yeux. Je trouverai jamais le local à 105. Je vais commencer par descendre au sous-sol et par constater qu'il y a juste les locaux de 5e secondaire. Ensuite, je vais remonter en courant au 2e étage et me retrouver à la bibliothèque. Je vais me perdre dans les rangées en essayant de trouver un adulte qui pourrait m'orienter. La cloche va sonner et je vais préférer me cacher dans les toilettes toute la journée plutôt qu'être en retard dans une classe. On va me retrouver momifiée dans une centaine d'années dans le plafond suspendu où je me serai réfugiée.
Ben non, on n'a plus besoin d'attendre tout ce temps-là parce que t'es vraiment là. Et c'était vraiment, vraiment une lecture intéressante, fluide. Puis l'aplomb avec lequel t'as lu ça, toute l'aisance, il y avait un bel équilibre entre ta lecture et ton jeu un peu, les intonations que tu prenais. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu nous as, pendant cette lecture-là, là, on était vraiment avec toi dans cette première journée à l'école secondaire. Moi, en tout cas, j'ai ressenti la nervosité que j'ai eue. Moi, ça fait bien longtemps que c'était ma première journée à l'école secondaire, mais je ressentais ça. Tu as su nous faire vivre ça. Comment tu t'es sentie devant du public? Parce qu'il y en avait du public là, au Salon du Livre. Est-ce que tu avais du plaisir?
Ben moi, c'est sûr, j'avais beaucoup de plaisir. J'aime ça être devant... J'aime ça avoir l'attention en général.
Ah oui?
J'aime beaucoup le théâtre et l'improvisation, puis tout ce qui touche à être devant du monde. J'aime beaucoup ça.
Oui. Est-ce que tu penses... Là, t'es en cinquième année, c'est déjà le temps de se projeter pour les écoles secondaires. Est-ce que tu penses à... Est-ce que tu envisages peut-être t'inscrire à l'école Robert Gravel?
Ben, j'ai pas encore visité cette école, puis je sais pas tellement... Je sais pas c'est où exactement.
Mais c'est à Montréal, mais c'est une école qui est axée sur le théâtre. C'est pour ça que je te parle de ça.
Ah oui. J'aimerais bien faire du théâtre.
Alors,
au secondaire.
Alors, je viens de semer quelque chose. Là. Tes parents vont dealer ça. On revient à ta lecture au Salon du Livre. Comment tu t'étais préparée à faire cette lecture? Qu'est-ce qui t'a aidée?
Surtout mes parents, ma professeure, mes amis et Madame Jennifer, en grosse partie. Mm-hmm. Et je leur lisais mes extraits et ils m'aidaient, ils me disaient des petits conseils à suivre.
Des conseils. Donc, tu avais choisi un extrait. Comment tu as fait pour choisir cet extrait-là plus qu'un autre extrait dans le livre?
Parce que je trouve que c'est lui qui avait le plus d'émotion, celui que je pouvais le mieux interpréter, puis celui que j'avais le plus de plaisir aussi.
Ça, c'est super important. Avec nous, il y a aussi Jeanne et Samuel, tes parents. Margot est en cinquième année. Elle a l'âge de prendre de plus en plus de responsabilités, de s'organiser davantage par elle-même. Dans ce contexte-là, Jeanne, comment vous l'avez soutenue dans sa préparation de votre côté comme parent?
Bien, ça a été vraiment facile de supporter Margot, en fait, parce que, comme vous l'avez dit, elle est assez organisée, elle commence à être très autonome dans ses affaires, puis le défi l'a beaucoup motivée à pratiquer. Fait que à tous les soirs, après le souper, elle montait sa table du salon, elle préparait son texte, elle lisait. On l'a chronométré aussi parce que, tu sais, dans la sélection de l'extrait, il fallait respecter une certaine durée.
C'est 3 minutes, je pense.
Oui, c'est ça. Fait que la partie chronomètre fait partie du processus de sélection dans ces extraits.
OK, c'est bon ça. En terminant, d'après vous, ce grand jeu de lecture à voix haute, pourquoi il est important? Je fais un tour de table rapidement. Qu'est-ce qu'il y a le goût de répondre en premier? Pourquoi c'est important? Margot?
Ben moi, c'est surtout pour encourager la lecture, mon école surtout à lire plus. Moi, ça m'a vraiment motivée. Je lis beaucoup plus de livres depuis que j'ai gagné ce concours.
Donc, la motivation. Coralie?
Oui, je dirais aussi d'avoir du plaisir. Fait que lier la lecture à avoir du plaisir, ça peut aussi encourager les jeunes à vouloir lire. C'est dire, ah, c'est le fun, lire, on a envie de faire des projets comme ça. Donc, je dirais aussi avoir du plaisir.
Le plaisir, la motivation, le plaisir, Jeanne?
Mm-hmm. Bien, un peu dans la même veine, moi, j'ai le goût de dire, ça décomplexifie ou ça décomplexe tout court la lecture. J'ai vu des étudiants pour qui c'est un petit peu plus difficile de lire à voix haute ou de lire tout court, puis qui ont vraiment été très motivés par l'exercice. Tu sais, la salle était en délire, là. Les enfants ont vraiment embarqué dans le projet. C'était super beau à voir.
Ah, c'est intéressant. Puis ça se passe autant dans la classe que dans l'école, que rendu au Salon du livre après. Mm-hmm. Alors, je vous remercie à tout le monde d'avoir accepté l'invitation. Encore une fois, bravo, Margot. Je te souhaite encore plein de lectures captivantes. On va rappeler le titre du livre que tu avais lu. C'est Fab, F-A-B, tome 1, La recrue de Émilie Ouellette, et c'est aux éditions Petit Homme. Voilà, merci, au revoir.
Merci.
Merci. Dis-moi ce que tu lis encore.
Deuxième temps maintenant de cette entrevue avec les lauréats du grand jeu de lecture à voix haute du Salon du livre de Montréal. Bonjour à Thérence Jarros-Daigle, le gagnant du grand jeu en 6e année. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, ça me fait plaisir que tu sois là. Et avec toi, Thérence, il y a aussi ton enseignant, Dominique Charbonneau-Bessner. Bonjour, Dominique.
Bonjour, Marie.
Et tes parents, Maxime Daigle et Fanny Jarros-Denis. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Thérence, je vais donner la parole d'abord à ton enseignant pour qu'il nous parle de l'école Paul Bruchesi.
Oui, l'école Paul Bruchesi, c'est une école primaire qui est située sur le plateau Mont-Royal. Son indice de défavorisation est de 1. On a la
Donc,
grande...
pas beaucoup.
Non, c'est le moins défavorisé possible. On a la chance à notre école d'avoir des parents qui sont très impliqués dans le parcours scolaire de leurs enfants. On a 17 classes à l'école.
OK.
Puis, au niveau de la lecture, la place un peu que la lecture prend dans l'école, comme plusieurs autres écoles, je crois, au CSSDM, la lecture a une place de choix dans notre école. Elle fait d'ailleurs partie de notre projet éducatif qui vise à augmenter le taux de littératie de nos élèves.
Oui.
Donc, on a un comité incroyable qui nous prépare des activités pour préparer toutes sortes de situations de lecture stimulantes pour les élèves, dont la lecture plaisir qu'on manque aujourd'hui, Thérence et moi. Une période où l'école au complet s'arrête pour 30 minutes et où tout le monde se choisit un livre, s'installe confortablement dans l'école, adulte comme enfant, puis on lit pendant 30 minutes.
Ça, c'est génial. J'aimerais ça, aller dans votre école pour ça, notamment pour ça. Puis pourquoi, Dominique, vous avez eu envie, vous, de participer avec vos élèves au grand jeu de lecture à voix haute?
Bien, à l'école, on avait des collègues qui ont fait au deuxième cycle lié avec moi.
Oui.
Donc, en échangeant un peu avec les collègues, j'ai vu qu'il y avait plusieurs points positifs pour les élèves de vivre cette activité-là. Entre autres, ça leur donne un espace où partager leur intérêt pour la lecture les uns aux autres.
Ouais.
Mais des fois, en tentant par des mots d'expliquer pourquoi on aime tel livre ou tel autre, ça ne vaut pas la lecture d'un extrait qui est vraiment très éloquent quand il est lu par l'enfant lui-même à ses pairs. Donc, grâce à cette activité, j'ai vu les élèves s'échanger des suggestions de lecture. Puis par la suite, même dans les semaines suivantes, les élèves avaient les livres les uns des autres.
Ils se les prêtaient, donc, oui, hein, exactement. C'est intéressant. Ça a un impact plus grand que juste en parler.
Oui, exactement.
Oh, ça, c'est bien. Oui. Thérence, c'est toi qui représentais ta classe et ton école. Qu'est-ce que tu avais choisi de lire comme livre, toi, au Salon du livre?
J'avais choisi de lire « Défense d'entrée », le tome 1.
Mm-hmm. Qui a écrit ça? T'en souviens-tu?
C'était avec son fils. C'est Olivier Larouche, ouais. Et sa la mère...
Caroline Héroux.
Oui, Caroline. Ouais.
Et l'éditeur, c'est De la Bagnole. Et si tu veux... En fait, moi, ma question, c'est pourquoi tu avais choisi ce livre-là en particulier?
Je l'avais choisi parce que, premièrement, je l'avais, mais surtout parce que à ce moment-ci du roman... le personnage principal avait le même âge que moi.
Ah oui!
Et...
Donc, tu t'es reconnu.
Oui.
Dans la lecture de ce livre-là, le personnage principal, il te faisait penser à toi.
Aussi, j'avais bien aimé le livre.
Oui, hein?
Oui.
Oui, moi aussi, j'allais bien aimer ce livre-là. C'est très drôle, hein? Oui, hein? Ça donne le goût de le lire. Moi, j'aimerais bien qu'on t'entende lire à voix haute. À voix haute, on a un court extrait de ta performance au Salon du livre le 19 novembre dernier. Alors, si tu veux, on va écouter ce petit 2 minutes-là de ta lecture.
Bon, par où commencer? Je déteste lire, mais comme je suis en punition, j'aime autant mieux écrire ce que je pense de ma grande sœur Amélie. Elle est complètement folle et elle me met de mauvaise humeur. C'est aujourd'hui le 5 août. Je suis assise sur mon lit, dans ma chambre, et ma mère vient de me punir car j'ai encore fouiné dans la chambre d'Amélie. J'ai mis une grenouille morte trop cool sur son lit. Il y en a toujours plein près de chez moi, au parc, car il y a un marécage pas bien loin. Elle a crié comme une hystérique. J'étais trop crampée. Tant pis pour elle, elle avait juste à ne pas être méchante avec moi devant ses amis. Mais ma mère me chicane toujours quand je fais quelque chose à ma sœur, et ça, c'est pas cool. Je suis obligée de rester dans ma chambre pendant 1 heure le temps que ma sœur se calme. Mais ça vaut la peine, j'ai le sourire aux lèvres, même fendu jusqu'aux oreilles. J'en ai mal aux joues. PS. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'elle ne peut pas prouver que c'est moi qui l'ai fait. J'ai quand même mes droits, non? N'existe-t-il pas une phrase qui affirme « innocent tant que pas reconnu coupable » ou quelque chose du genre? Je pense que ma mère devrait me donner le droit de m'exprimer. Si on m'empêche d'exercer mes droits, je vais me plaindre à la commission de quoi? La commission des droits des enfants qui veulent se plaindre de leur grande sœur. Tiens, non, mais elle me tape vraiment sur les nerfs, elle, avec ses cheveux et son maquillage et ses petites jupes. Je l'ai surprise l'autre jour au parc à Frenchie avec son chum. Oui, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire embrasser quelqu'un sur les lèvres et c'est vraiment dégueu. Fallait voir la face de ma sœur quand je l'ai dit à ma mère. Trop drôle, elle a crié genre « Hey, t'es vraiment con, toi! » Et là, ma mère nous a envoyés dans nos chambres et moi, j'ai pu penser à mon prochain coup. Mais mon petit frère est rentré 10 minutes après et il est venu me déranger encore une fois. Il n'est pas du monde, lui. Il ne me lâche pas une seconde. Il me tape vraiment sur les nerfs. Il s'appelle Arthur. Ah, en passant, moi, c'est Charles, mais tout le monde m'appelle Lolo.
Bravo, Thérence, bravo. Quelle aisance. C'était formidable. T'étais aussi cool que le personnage qui raconte l'histoire. Vraiment. Moi, j'étais là, hein, au Salon du livre. Je pouvais entendre ça. Très, très bel équilibre entre ta lecture, qui était juste, qui était fluide, puis le jeu, parce que t'as quand même joué un petit peu avec tes intonations. Dis-moi comment tu t'es sentie devant le public. T'avais-tu du plaisir?
Au début, quand j'attendais, parce que moi, j'étais dernier.
Oui. Oui, oui.
Le cinquième. Le suspense était à son comble à la fin.
Oui.
Mais au début, j'étais un peu stressée quand même. Et là, j'entendais les textes. Et là, j'étais comme, j'ai-tu une chance?
Mm-hmm.
Et là, quand c'est venu, quand j'ai passé,
oui.
Tout de suite, là, j'ai arrêté de stresser.
T'as plus pensé au stress, là?
Non, j'ai pensé à mon livre.
Ah, puis t'étais vraiment, vraiment à l'aise. Comment tu t'es préparée à faire cette lecture? Qu'est-ce qui t'a aidée?
Premièrement, je représentais pas encore l'école, mm-hmm. quand c'était...
Dans
je
faisais la classe.
Comme les autres, là.
Oui.
J'avais pratiqué une fois devant mes parents. Ils m'avaient donné des petits conseils, mais j'avais pas...
Tu n'avais pas tant de choses que ça a changé.
C'est ça.
C'est bon.
Et là, dès que j'ai été choisie, ben j'ai lu pendant nos temps de lecture à l'école. J'ai lu beaucoup chez moi.
Oui.
J'ai aussi mis un crayon dans ma bouche.
Dans ta bouche.
J'ai parlé pendant une
pour,
couple de temps.
Pour la prononciation.
Ouais.
C'est un conseil que Sophie Fauché vous avait donné, hein?
Ouais.
Ouais, ouais, je me souviens de ça. Avec nous, il y a Fanny et Maxime, tes parents. Thérence est en sixième année, mm-hmm. donc à l'âge de prendre de plus en plus de responsabilités, de s'organiser davantage
Absolument.
Par lui-même. Dans ce contexte-là, oui. comment vous l'avez soutenu dans sa préparation comme parent?
Ben, exactement comme on soutient un grand garçon, donc on n'était pas toujours... en train d'intervenir. Bien sûr, on a assisté à quelques répétitions. On a donné les conseils de base, surtout prendre son temps, respirer. Donc, essayer d'être naturel, essayer de trouver ce qui nous rejoint dans le personnage, prendre ce chemin-là. Mais sinon, on l'a entendu beaucoup se pratiquer, mais seul.
Donc, vous n'aviez pas besoin d'insister.
Mais non.
Parce qu'il était déjà motivé
par
lui-même.
Oui, il était très motivé.
Formidable. Oui. Formidable. Et on va faire un tour de table, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il apporte, d'après vous, aux jeunes, ce grand jeu de lecture à voix haute? Qu'est-ce qu'il a le goût de commencer? Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes? Thérence.
Ben, moi, j'avais trouvé, premièrement, pour les personnes qui... La personne qui lisait, ben, tu lis un livre. C'est vraiment... c'est une expérience amusante parce que tu peux jouer des airs assez rigolos, autant que tu peux être très, très, très sérieux.
Ouais.
Tu peux le lire de n'importe quelle façon.
Ça te permet d'aller dans plein de palettes.
Ouais.
Oh, ça, c'est intéressant.
À l'unique condition que les autres comprennent.
Évidemment. Parce qu'on a un souci pour la personne qui nous écoute.
Et pour les gens qui écoutent, ben c'est lire un livre.
Mm-hmm. C'est plaisant, c'est un plaisir.
Oui, en plus, il y a les voix et tout.
Intéressant. Qu'est-ce que le goût de poursuivre? Qu'est-ce que ça apporte,
Dominique? Oui, peut-être de mon côté, là, on a eu la chance d'entendre Thérence, mais pour tous les autres élèves qui ont participé dans ma classe, je crois qu'il y a eu quand même une belle fierté, une belle réussite de partir d'un extrait de livre, de le présenter au reste de la classe, de se pratiquer, préparer.
C'est une expérience qu'on vit tout le monde ensemble, finalement.
Une expérience qu'ils ont vécue ensemble et dont ils sont fiers. C'est stressant un peu, la préparation, attendre son tour. Mais une fois qu'ils l'ont fait, ils étaient tous très contents de leur prestation.
C'est une belle satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Fanny?
Oui, c'était beau à voir là, parce qu'il a reçu le soutien de sa classe, la fierté de ses camarades, tout ça. C'était vraiment beau à voir.
Quelque chose de commun où on participe tous ensemble.
Oui.
C'est parfait. Je vous remercie à tous d'avoir accepté l'invitation. Encore une fois, bravo, Thérence. Je te souhaite plein de lectures instructives et amusantes. Au grand plaisir. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et chroniqueuses d'aujourd'hui. Merci également aux collaborateurs Michel Brûlé pour le soutien à la préparation, Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, directeur de la radio. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain à la mi-mars.